un code radio.
Et nous sommes de retour sur Radio Panique et Ergot Radio au séminaire de l'ERG dans la zone de radio temporaire. On a eu quelques difficultés techniques avec le groupe Piscine, mais elles seront de retour plus tard dans l'après-midi pour continuer leur performance. Et maintenant, on a un invité, Amandine Gay, bonjour.
Bonjour.
Et je vais laisser la parole à Alex et Sarah pour le petit entretien.
Oui, donc on reçoit aujourd'hui Amandine Gay qui est venue hier pour faire un workshop avec des élèves, et son film sera projeté ce soir à Beaux-Arts à 20h. Ça sera suivi d'un débat ou d'une rencontre avec les spectateurs.
Oui, c'est ça, on va discuter à l'issue des projections. Enfin, si je suis là, en règle générale, on parle pendant une heure, donc un débat entre la salle et moi. Ouais.
Ok, parfait. Et je voulais savoir un peu ton parcours.
C'est un peu large comme question. J'ai 32 ans, on commence à quelle époque à peu près?
Non, mais oui, on voit que tu as un parcours assez multiple, universitaire, artistique, etc. Est-ce que tu peux nous tracer un petit peu ce qui t'a mené à faire ce film?
Ok, ça marche. Alors, on va dire qu'on commence il y a une dizaine d'années à peu près, peut-être un peu plus. Donc, il y a 10 ans, je terminais mes études à Sciences Po Lyon, en communication. Et quand je suis rentrée, j'étais encore effectivement basketteuse aussi de haut niveau, joueur National 3. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont influencé la façon dont je fonctionne aujourd'hui et dont je travaille, que ce soit les sports collectifs, que ce soit d'avoir été déléguée de classe aussi. J'explique souvent que la prise de parole publique n'est pas du tout nouvelle pour moi, même le fait d'avoir été élevée dans la religion catholique et de parler à la messe par exemple, et des choses comme ça. Donc voilà, je pense qu'effectivement on peut retracer certaines tendances. Je viens aussi d'une famille où ma mère était la plus diplômée, gagnait le plus d'argent et était syndiquée, donc j'explique aussi souvent que je ne me rappelle pas de la première manif que j'ai faite, puisque j'ai toujours été en manif. Et puis une fois arrivée à l'âge adulte, je dirais qu'effectivement la fin de Sciences Po a coïncidé avec la proposition de loi pour mettre en avant le rôle positif de la colonisation en France, donc qui était une proposition de loi de 2005 et qui a généré une très grosse levée de boucliers, la constitution de beaucoup de groupes politiques aussi. Et c'est à ce moment-là que j'avais décidé de faire justement mon mémoire de fin d'études à Sciences Po sur les enjeux de traitement de la question coloniale dans la société contemporaine française. C'était le titre à l'époque. Et ça, c'était il y a 10 ans. J'ai déposé en 2006. Et j'avais fait donc un terrain qui, enfin c'était pas un terrain mais c'était une étude de cas qui visait à montrer l'évolution de la représentation des Noirs dans le monde de la publicité. Et puis une fois que j'ai terminé ça, j'ai voyagé puisque j'ai fait mon année d'échange en Australie où je voulais justement voir un peu comment ça se passait dans un pays qui étudiait son histoire coloniale de façon directe. C'est-à-dire que j'ai été en particulier pour prendre des cours dans des départements d'Aboriginal Studies. Et à Melbourne, cette année-là, c'était la première fois qu'une femme aborigène donnait le cours en Aboriginal Studies, et donc c'était très intéressant. J'ai voyagé en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Thaïlande, voilà, comme tous les petits Français qui prennent leur sac à dos et qui vont faire le tour dans le Pacifique. Et puis je suis rentrée en France, j'ai passé quelques mois, puis je ne trouvais pas ça génial, donc je suis partie vivre à Londres 6 mois. Et à mon retour, j'ai décidé, puisque ça faisait longtemps aussi que je tournais autour des milieux culturels, j'ai longtemps travaillé à l'Auditorium de Lyon pendant mes études, où j'ai d'abord été ouvreuse, et puis ensuite je m'occupais des loges, et puis je faisais guide de l'établissement. J'ai beaucoup travaillé en festival aussi l'été, que ce soit festival de musique ou de film. J'ai fait aussi mon stage de deuxième année à Sciences Po à l'USAS, qui est un lieu du documentaire. Donc il y a Ardèche Images, qui a la plus grosse vidéothèque de documentaires d'Europe, qui a aussi un très gros festival qui s'appelle les États généraux du film documentaire et qui a un master de réalisation. Donc disons que ça faisait longtemps que voilà, tout se croisait un peu, et quand je suis rentrée d'Angleterre, j'ai décidé de passer les concours pour les conservatoires à Paris. J'ai été prise au 16e en art dramatique, et donc là j'ai commencé à travailler comme comédienne. Assez rapidement en fait, un metteur en scène était venu dans mon conservatoire, donc j'ai bossé sur ma première pièce, j'ai trouvé un agent et j'ai commencé à passer des auditions. Et donc là a commencé la période, on va dire, un peu de dichotomie entre mon travail alimentaire où je me retrouvais à renforcer des clichés à longueur de journée et à passer donc des auditions pour faire droguée, prostituée, stripteaseuse, fille qui sort ou qui va en prison, sans papier, mariage forcé, excision, voilà tout ça. Et puis par ailleurs, à continuer à être impliquée dans des groupes militants, à écrire. Et donc cette tension est devenue assez insupportable au bout d'un moment. Donc je suis passée à l'écriture de fiction, de programmes courts. Donc un certain nombre d'entre eux ont été en développement dans les boîtes de production. Donc là aussi, j'ai découvert tout le rapport à l'institution audiovisuelle, télévisuelle française, de devoir négocier avec des producteurs, de se rendre compte qu'il ne suffit pas d'écrire des scénarios pour qu'ils puissent être portés tels quels jusqu'au moment de leur réalisation. Et de là est venue l'envie de faire un documentaire, puisqu'on me posait souvent que les personnages noirs que j'écrivais n'étaient pas réalistes, que c'était des personnages qu'on aurait pu trouver éventuellement dans des séries américaines, mais que ces filles-là n'existaient pas en France. Et donc je me suis dit, on va commencer par le commencement, puis on va faire un documentaire avec plein de filles noires de France, et puis bon, de Belgique, qui s'est trouvé, ça c'est la magie des réseaux sociaux. Et puis je me suis dit, voilà, comme ça, cette partie-là de la conversation sera close, et puis après, je pourrai effectivement faire les fictions que je veux, sans avoir à justifier que non, c'est universel, oui, toutes les filles noires ne sont pas des filles sans papier, et d'ailleurs, la majorité des noirs de France et de Belgique ne sont pas des primo-arrivantes. Et puis même dans les primo-arrivantes, il y a des personnes qui sont en situation légale, on n'en parle jamais aussi de ces gens-là qui viennent étudier, enfin voilà. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé jusqu'au documentaire.
D'accord.
Et est-ce que tu peux nous faire un petit retour aussi sur ton expérience du séminaire avec les élèves de l'ERG? Qu'est-ce que tu as essayé de leur transmettre pendant ce temps-là? Qu'est-ce que tu as essayé de faire avec eux?
Ouais, bien sûr. C'était très intéressant parce que moi, à partir du moment où on m'invite dans un endroit comme l'ERG, qui est quand même un espace prédominément blanc, je me pose la question de comment ça peut avoir un intérêt politiquement pour moi. C'est-à-dire que déjà aussi, tout dépend de qui m'invite. Je pense que l'invitation ne serait pas venue de Peggy Pierrot, je ne serais peut-être pas venue, déjà, que les choses soient très claires. Donc voilà, ça dépend dans quel contexte, qui m'invite. Mais si je viens dans cet espace-là, ça va justement pas être, par exemple, pour juste faire une conférence sur l'intersectionnalité, parce que justement, je trouve qu'il y a un gros souci, souvent, pour le groupe majoritaire, à ne pas avoir l'habitude de se déconstruire. C'est-à-dire que les minoritaires vont très rapidement, effectivement, se situer aussi, dire, je sais pas, moi, je suis une personne queer, je suis machin. C'est très rare que des personnes qui appartiennent au groupe majoritaire vous disent, bonjour, je suis une femme cis, hétéro, blanche, et je vais vous parler à partir de tous ces points de privilège. Et est-ce que même cette personne-là a conscience qu'elle est privilégiée? Si, voilà, on est dans une école d'art, même tous les blancs ne sont pas dans des écoles d'art. Donc, ce que ça veut dire, c'est quoi notre appartenance de classe? Donc moi, c'est vrai que si j'accepte de venir à l'ERG, c'est pour parler de ça, en fait. L'objectif, ça va être de venir et puis d'avoir une conversation qui fait rentrer les enjeux race, classe, genre, et en particulier, surtout, d'arriver à montrer que ce que j'expliquais dans l'universel, de la même façon qu'on va me répondre qu'un film avec que des noirs est un film communautariste ou un film de niche, moi je réponds qu'on se pose jamais la question de savoir si un film avec que des blancs est un film de niche ou communautariste. Et donc du coup, c'est vraiment cette question là aussi, c'est d'arriver à confronter la norme au fait qu'elle est une norme, faire en sorte que les gens prennent conscience de où ils se situent dans la société, et puis de voir aussi que s'il y a eu des esclaves, il y a eu des esclavagistes. S'il y a des descendants de colonisés, il y a des descendants de colons. Et donc, si nous, on n'a pas le choix de se positionner en tant que descendants de colonisés ou pas, parce qu'on est identifié comme tel physiquement dans la rue, est-ce que les blancs et les blanches de la Belgique et de la France se positionnent en tant que descendants de colons? Et quel est leur rapport à cette histoire-là? Donc moi, c'est ce que je suis venue faire à l'ERG. Et c'est l'atelier que j'avais proposé hier, c'est-à-dire que l'on soit de passage à l'ERG, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français, on sait qu'il y a beaucoup de Français ici. Donc est-ce qu'on est, par exemple, au fait de l'histoire coloniale belge, de ce qui s'est passé ici, ou est-ce que, justement, aussi, il va y avoir cette prédominance de la narration française sur les histoires coloniales qui va aussi complètement effacer ce qui s'est passé, ce que j'explique. Même la Suisse n'a pas eu de possession coloniale, mais la présence suisse en Afrique, au temps de la colonisation, elle est très importante aussi. Donc du coup, voilà, ça c'est des choses dont on a parlé, j'ai été montrer le film en Suisse aussi, et ce que j'expliquais, c'est que si je ne peux pas trouver des groupes, voilà, s'il y avait peut-être assez d'élèves noirs à l'ERG, il y aurait l'association des étudiants noirs à l'ERG, et puis j'aurais demandé à faire quelque chose en parallèle, ou en tout cas conjointement à ces étudiantes-là. Bon, si ça n'existe pas, ce que j'ai fait par exemple en Suisse, où c'est le collectif Afro-Suisse qui a présenté le film, et puis qui a organisé le débat autour des enjeux suisses et noires. C'est-à-dire que moi, okay, je ne peux pas savoir ce qui se passe dans tous les espaces francophones, donc c'est mieux que ce soit des personnes locales qui arrivent et puis qui puissent directement ancrer la discussion. Un jeune homme noir suisse avait été tué d'une balle dans le dos, là, dans la rue, il n'y a pas très longtemps, il y a eu des grosses manifestations. Voilà, moi, par exemple, je ne connais même pas son nom. Donc, du coup, les filles sont venues, ont recadré ça, ont parlé de la première personne politique suisse qui était en fait une femme noire, mais qui n'a pas été identifiée comme telle historiquement. Donc, quand un homme noir a récemment été élu, tous les médias ont dit c'est la première fois qu'un Suisse est au Parlement ou je ne sais pas quoi, puis en fait, ce n'était pas vrai. Donc, voilà, ça, c'était très intéressant parce qu'elles ont fait ce recadrage-là. Donc là, comme j'avais pas de personnes noires de l'ERG, ou en tout cas pas un assez grand groupe, pour faire ce travail de réintroduisons ma présence et les discussions autour de l'afroféminisme, de l'intersectionnalité dans le contexte belge, bah, j'ai demandé aux personnes qui avaient donc soit aux Belges de venir avec des artefacts coloniaux, avec des images d'archives de leur famille, avec ce qu'ils pouvaient, ce qu'ils et elles pouvaient trouver qui était en lien avec l'histoire coloniale belge. Et puis j'ai dit aux autres, les racisés aussi, s'il y en avait, bah, qui viennent et qui me parlent de leur travail sur ces enjeux-là ou pas, ou s'ils travaillent dessus ou pas. Et puis pour les personnes qui étaient, on va dire, visiteuses, bah de voir si elles, par exemple, aussi, elles peuvent faire des promenades dans Bruxelles et puis déceler toutes les traces de l'époque coloniale. Est-ce qu'il y a des choses qui les choquent? Même, par exemple, par rapport à la France, c'est vrai qu'on va avoir des débats plus houleux en France sur les questions raciales, ouais. Mais il y a des choses qui ne se font plus, comme effectivement les grandes statues de nus bien nus devant des boutiques d'antiquité.
Oui, comme on peut voir
au si, Paris. Peut-être pas des statues, mais il y a des restes sur certains monuments.
Non, il y a des restes, mais pas aussi visibles.
Pas aussi visibles, ouais.
Bruxelles, ce qui est fascinant quand on arrive de France, c'est de se dire mon Dieu, ah ouais, ça c'est encore debout quoi. Il y a personne qui est venu, je sais pas, saccager ces trucs là et tout. Donc voilà, ça je trouvais ça intéressant et on a discuté autour de ça. J'ai d'abord quand même un peu parlé parce que voilà, j'ai fait un peu un cadrage aussi par rapport à mon travail, à expliquer pourquoi pour moi c'était important le point de vue situé et que justement ça ne concerne pas que les minoritaires. Pourquoi c'était important de aussi d'aborder les questions du corps, de la représentation. Donc j'ai fait voilà une petite heure là-dessus et puis après on s'est mis en cercle, on a discuté quoi. Qui a apporté quels objets, okay. Qu'est-ce que représentent ces objets. Ce qui était aussi super cool, c'est que les personnes ont aussi amené les mails de discussion qu'elles ont eu avec les membres de leur famille quand elles ont demandé certains objets. Et donc ça aussi, c'était super intéressant. Et moi, c'est vrai que c'est un travail qui m'intéresse beaucoup, c'est le discours familial et comment l'histoire avec un grand H en fait se retrouve dans les petites histoires familiales, comment on peut retracer l'histoire de la colonisation et en passant dans l'intime et aussi en amenant l'institution dans la conversation. Ce que je disais, c'est que ça va être difficile peut-être sans prétexte d'arriver à l'histoire coloniale dans sa famille. Mais par contre, si on est à l'ERG et que la consigne, c'est ramener des artefacts coloniaux, ben on va contacter des membres de sa famille en disant « Oui, il me semble me rappeler que grand-maman ou grand-tatan avait des images d'archives ou des films Super 8. Qui est-ce qui les a? Où sont-ils ?» Et puis ça crée une conversation dans la famille qui n'a peut-être jamais eu lieu avant.
C'est la démarche qui apporte aussi, qui permet après de prendre conscience de tout ça et d'engager la discussion avec la famille et puis après dans le workshop que t'as fait hier du coup. Et je voulais savoir comment est-ce que, qu'est-ce qu'il en est ressorti de ça, des élèves, comment est-ce que t'as senti ça, comment ça s'est...
Alors bah, déjà, comme justement à partir du moment où on parle d'intime, moi je vais pas retranscrire ce qui s'est passé dans l'atelier hier parce que ce serait pas éthiquement acceptable. Ce que je dirais, c'est que l'objectif, c'est de lancer des conversations, c'est tout mon travail. Je veux dire, le film, c'est ça, ça s'appelle Ouvrir la voie. Moi, je considère que mon travail, c'est effectivement mettre fin au tabou, lancer des sujets de conversation. Et après, est-ce que ça va se poursuivre ou pas en mon absence? Je sais pas. Est-ce que le travail qui a été amorcé comme ça va être poursuivi au sein des familles ou même au sein de l'ERG? Je pense que, par exemple, après, il faudrait, par exemple, demander aux élèves racisés qui étaient là hier... aussi, est-ce que c'est intéressant? J'ai parlé avec l'un d'eux à la suite de l'atelier. C'est des conversations qui parfois n'ont jamais eu lieu non plus entre les élèves blancs et les élèves racisés de l'ERG. Donc peut-être qu'au moins il y a cette question aussi de libération de la parole. C'est sûr que ça met tout le monde mal à l'aise. On est bien d'accord que le fait d'avoir des vestiges coloniaux dans sa famille quand on est blanc, on n'a pas forcément envie d'en parler et surtout pas avec ses camarades noirs et arabes dans son école d'art parce que on commence par où, comment on se positionne. Donc pour moi c'était plus déjà faire en sorte que ce soit sorti une fois, voir qu'on peut en parler. Après aussi c'est aux gens de trouver leurs outils. Moi ce que je disais hier, je crois beaucoup à la non-mixité et je pense que par exemple pour aborder les questions coloniales du point de vue des descendants de colons, peut-être qu'il y a besoin de mettre en place des groupes de parole entre blancs. Parce qu'effectivement, la présence des personnes racisées dans une salle où on parle de colonisation du point de vue des descendants de colons, c'est malaisant, comme on dit au Québec, pour les blancs, c'est vrai, et je peux comprendre ça. Donc je pense que, par exemple, est-ce qu'à terme, des groupes de parole sur le lien des ancêtres des personnes blanches et des ancêtres pas si lointains, encore une fois, là, en Belgique, on est à la deuxième génération, en fait. Il suffit d'aller voir les grands-parents et les grandes-tantes pour avoir des gens qui vivaient au Congo. Donc du coup, toute cette réflexion sur après... comment est-ce qu'on poursuit ces conversations? Comment après aussi on fait des ponts entre bah, après les élèves blancs, les élèves racisés? Est-ce qu'on peut travailler conjointement sur l'histoire coloniale entre, je sais pas moi, belges noirs originaires du Congo et belges blancs dont la famille était en train de coloniser le Congo? C'est sûrement possible, mais sous quelle forme, comment ça se passe? Voilà, moi je suis plutôt la personne qui aime bien venir et puis je sais pas comment dire, moi je sais pas comment on appelle ça, la médecine, si t'as une massue et puis t'as un clou, puis tu mets voilà, moi je fais ça, puis après je m'en fais.
Oui, voilà, c'est...
je laisse les gens se débrouiller, pas dans le sens de juste venir mettre le souk, mais bon, il faut que ça commence quelque part. Et j'ai la chance d'avoir aujourd'hui cette posture qui me permet de venir faire ça. Quand j'étais moi-même étudiante et que j'étais pas dans un rapport de pouvoir, c'est-à-dire de validation par l'institution, si je posais ces questions-là en classe, ça devenait quelque chose de très confrontant. Mais maintenant, je reviens en tant qu'universitaire, en tant qu'artiste, je peux poser ces questions sans qu'aussi les personnes du groupe majoritaire se sentent agressées. Ouais. Et donc après, bah, est-ce que les conversations continuent quand je suis plus là? Bah, je sais pas, on verra.
Mais est-ce que, enfin, je sais pas, t'as pas l'impression que peut-être de par ton statut, tu légites, enfin, comment tourner ça? Quand t'es là, de par ton statut, parce que t'es invité dans un certain cadre, et ben ça délie la parole d'une certaine façon. Mais pardon. Non, j'arrive pas. Je vais plutôt dire ce que je comptais dire à la base. Okay. Est-ce qu'on peut parler un peu de ton film, du coup, parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de temps en tant qu'objet objet cinématographique.
Ah oui, on doit parler de mon film en tant qu'objet cinématographique, donc allons-y.
Désolée, je me suis un peu emmêlée toute seule.
Ah, je crois que tu avais une question. Oui,
non.
Je veux bien, mais c'est-à-dire au niveau de la forme, de comment c'était. J'attendais une question en fait.
Ah non, c'était juste. Est-ce que tu peux nous parler de ton film?
Ah oui, d'accord, bien sûr. Oui, bah l'objectif, c'est vraiment de faire un documentaire de création, puisque justement un des écueils des films politiques, c'est de complètement négliger l'esthétique. Et moi, je pense que l'esthétique, c'est au contraire quelque chose de très très politique. Ouais. Donc la question, c'était qu'au-delà de ces échanges et de cette grande conversation, déjà c'est un film concept, puisque en fait c'est une grande conversation entre les 24 intervenantes et puis aussi moi, puisque bah, déjà c'est moi qui l'ai écrit et qui ai posé les questions, puis parfois on m'entend. Donc déjà ça requiert des stratégies de montage très particulières, parce que bah, on ne peut monter qu'en jump cut, parce que pour faire enchaîner des filles sur les mêmes thématiques et que ce soit comme fluide au niveau de la conversation, on a choisi le jump cut par exemple. Une des autres choses aussi, c'était très important de s'éloigner de tous les codes télévisuels qui pour moi voilà, relèvent on va dire, de la triche, c'est-à-dire que si tu ne sais pas comment meubler ou que tu ne veux pas que les gens s'ennuient, tu mets un plan de coupe et puis voilà, on voit quelqu'un qui marche ou on voit quelqu'un dans son salon et tout. Moi, ça c'est vraiment des choses que j'aborde. Soit on a quelque chose qui a un sens, c'est-à-dire que dans le film, il y a la parole et il y a le témoignage slash analyse, et ensuite il y a des respirations, et les respirations sont des moments artistiques. Parce qu'aussi, moi, en tant que performeuse, j'étais extrêmement frustrée qu'on ne voit pas les artistes noirs dans la pluralité, la diversité de leurs expressions artistiques. Donc, il y a du burlesque, il y a de la performance, il y a du théâtre classique, il y a voilà, toutes sortes de respirations qui viennent aussi renforcer ces choix esthétiques. Et donc, la musique, c'est que de la musique qui est dans les séquences, c'est-à-dire que dans la séquence burlesque, il y a de la musique. Mais pareil, il n'y a pas de musique qui est là pour illustrer, et surtout pas, voilà, comme dans les films américains, dans ce truc de attention, c'est le moment triste, on va vous faire trois notes de piano ou mettre un peu de violon. Comme c'était un film de contrainte, moi au départ j'avais plein d'idées sur la musique, je voulais faire une espèce de bulle musicale et tout. Après on n'avait pas d'argent et donc la question c'est est-ce que je vais prendre de la musique de libre de droit qui me plaît pas, ou est-ce que je ne prends pas de musique et je trouve un moyen de créer un rythme autrement. Donc le rythme, il est dans la parole, parce que les filles ont chacune leur façon de parler. Il est dans les moments où on met aussi des interruptions. Donc une des autres choses qu'on a faites aussi, c'est les cartons de chapitrage. Le chapitrage, il a deux objectifs qui sont bah, déjà de comprendre dans quelle partie on rentre, mais aussi de créer une attente. Parce que bah, vous verrez dans le film ce soir, les chapitres sont en fait des citations de la partie à venir. D'accord. Donc une fois qu'on a compris le principe, bah, on attend ce qui va arriver, et donc ça permet aussi de maintenir un peu la tension, parce que c'est vrai que c'est très dense. C'est un film d'entretien de 2 heures. Un film d'entretien de 2 heures sans musique sur des sujets politiques très intenses, ça aussi c'est un vrai choix esthétique, parce que ça veut dire qu'on part du principe que on va comme assommer le public. Moi mon choix c'était vraiment de faire quelque chose où, puisque pendant 2 heures, vous n'avez pas le choix de quitter la salle, vous pouvez, mais votre seul choix, c'est de quitter la salle. Vous ne pouvez pas interrompre le discours qui vous est présenté, qui est aussi une des choses dont on parle beaucoup dans la nécessité de non-mixité, de comment faire exister sa parole, comment ne pas être coupé, comment ne pas être questionné en permanence. Donc, à partir du moment où on a ce temps devant soi, pour moi, ce qui était très important, c'était de créer comme une espèce de fatigue aussi, d'une fois que ça fait déjà 1h30 qu'on vous parle, mais quand arrivent les grosses thématiques comme la dépression, l'orientation sexuelle, la maternité, bah vous êtes dans un espèce d'état où vous êtes beaucoup plus prêt et prête à accepter certains sujets que si je vous les avais mis au début du film, il y avait des chances que ça vous heurte vraiment. L'autre choix aussi esthétique, c'était de cadrer au plus près des filles. À partir du moment où j'ai décidé, donc c'était un film d'entretien et puis de grandes conversations entre toutes les participantes, il y avait cette question de comment maintenir aussi un rythme. Et le rythme, il vient aussi du fait que la caméra n'est pas posée. C'est caméra à l'épaule tout le long. Et okay. Donc, on suit le mouvement des filles. Elles sont cadrées en très gros plan. Et avec le très gros plan, il y a la profondeur, il y a le flou. On a fait tout un travail de sélection d'optique aussi, puisque c'est un film qui est fait en Blackmagic Pocket. Donc, c'est un boîtier sur lequel on peut mettre des objectifs photo. Donc, il y avait aussi tout un travail pour moi qui était hyper important, qui était le travail de lumière, puisque souvent, ce que j'explique, c'est que moi, dans mon parcours de comédienne, on me disait « Oui, mais le problème, c'est que les noirs sont trop durs à éclairer, les noirs prennent pas bien la lumière. » Et puis ça, c'est aussi un vieil héritage colonial, raciste, ce qu'on veut, qui est que l'échelle Kodachrome a été créée pour les blancs, en fait. Donc, quand on regarde les échelles Kodachrome historiques, moi j'en ai même parce que voilà, ça reste des objets collector. Ouais. Bon, bah en fait, c'est des espèces de gradations comme ça autour du beige et puis jusqu'aux autres couleurs. Mais en fait, tout le monde n'est pas beige. Donc, du coup, bah, c'est sûr que c'est pas que les noirs prennent mal la couleur, c'est juste qu'il faut apprendre à faire une balance des blancs qui fonctionne sur les noirs aussi. Donc voilà, pour moi, il y avait aussi toute cette nécessité de pouvoir faire exister les grains de peau, de faire exister ce reflet, de faire en sorte que voilà, l'image soit, qu'un traitement de l'image et que l'image soit belle, pas dans ce sens de les filles devaient être belles au sens esthétique, patriarcal, mais au sens de la beauté est aussi de notre côté. Ce qui se passe aussi quand on grandit en tant que jeune fille noire, c'est qu'on n'a pas d'icône, il n'y a pas de personne qui nous ressemble. Les femmes noires sublimées dans l'imaginaire commun dans les pays d'Europe francophone, voilà, moi je ne l'ai pas encore diffusé, mais j'avais demandé à toutes les filles de me citer 5 comédiennes noires françaises connues, en dehors de celle qui est costumière dans le film. Personne n'est capable de le faire parce que voilà, on ne les connaît pas, on n'a pas du tout cet imaginaire de la femme noire ou des femmes noires glamour et tout ça. Donc il y avait vraiment cette nécessité de faire exister au niveau de l'image, de la luminosité, du cadre, trouver un rythme sur un film très long et très dense sans musique. Voilà, donc c'est un film avec énormément de parti pris esthétique, et puis ça, pour moi, finalement, ça fait aussi partie de l'angle politique du film, quoi.
Merci beaucoup. Là, malheureusement, on va devoir s'arrêter. Mais merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci
d'avoir invité.